Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le Friday Night SmackDown, le 1162e du nom. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Bienvenue sur catch-up. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir puisque c'est tout simplement une triple frite catch-upesque qui vous attend. Pour vous présenter tout ça, vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton catch-up, tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review, une grosse tag team pour un gros trios, dans cette review pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cet épisode. D'abord, laissez-moi introduire le partenaire gériatrique of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, le papy. Salut papy!
Bonjour petits enfants, bonjour tonton, comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va bien, ravi de te retrouver dans cette review. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu le temps de discuter WWE ensemble. Eh ben écoute, on va se faire plaisir.
Ça fait plaisir.
Et le troisième, larron, car une triple frite ne pourrait pas aller sans. Eh bien écoutez, c'était tout simplement mon partenaire ancestral of the day de Monday Night Raw. Et bah il est dans la continuité, il nous fait un back-to-back, c'est le retour de l'archange Géliel. Salut Géliel.
Salut tonton, salut papy, salut à tous.
Salut Géliel.
Salut le Géliel. Alors, vous êtes chaud, on est parti, on est dans le 1162e Friday Night SmackDown, on est à Greensboro, North Carolina, USA, au Greensboro Coliseum, au commentaire Michael Cole et Pat McAfee. Ça va commencer direct avec Kella Braxton, hein, qui est un petit peu en problème en ce moment, un peu avec Paul Heyman. Elle est sur le ring et elle va commencer à parler des rumeurs sur la suspension de Brock Lesnar, ce qui agite tout le landerneau du WWE Universe. Et elle va être interrompue très vite, hein, par la musique de Roman Reigns qui va arriver sur le ring aux côtés de Paul Heyman. On va revoir un peu quelques images du match contre Big E face au Survivor Series. Paul Heyman va prendre le micro, va demander à Braxton si elle n'a pas mieux à faire finalement que de parler de Brock Lesnar. Hein, franchement, elle cherche surtout à se faire remarquer, la gamine. Donc il va les temps que tout ça s'arrête. Roman Reigns va pécho le micro et tout simplement va nous expliquer que les rumeurs donnent de l'espoir aux losers. Ah. Voilà. En plus, Roman Reigns, il est chaud sur les réseaux sociaux en ce moment. Peuplé de catch-up, si vous n'y êtes pas déjà, allez voir sur le Discord. J'ai eu l'occasion de partager quelques tweets un peu sentis et ça me fait assez rire de l'entendre parler de ça dans ce SmackDown. Donc du coup, il nous explique que les rumeurs donnent de l'espoir aux losers et que tout le monde est un loser ici, à part lui, parce qu'il a battu tout le monde. Et Brock Lesnar, c'est tout simplement le loser number one. Reigns, il a fait le tour du monde en avion. Il lui a botté le cul. Big E, c'est aussi un loser parce que lui, il a perdu face à lui au Survivor Series. Donc, ils font partie d'une longue liste de losers que Reigns a battu. Du coup, les officiels, bah, ils sont clairement désespérés, quoi, parce qu'ils ont organisé une Battle Royale, un Invitational pour le Black Friday. Et bah, il pourrait même, à la rigueur, désigner plusieurs gagnants que, de toute façon, il les battrait tous parce qu'il est le meilleur. Voilà, la tête de la table les a posés justement sur la table. Limite, j'ai presque envie de dire qu'il pose un tacle au booker en leur disant « Bah, ouais, de toute façon, allez-y. Mettez ce que vous avez envie, on va bien voir ce que ça va donner. » Enfin bref, la tête de la table, l'opener de ce Monday Night, de ce Friday Night Smackdown, pardon. Donc, mon Géliel, qu'est-ce que tu as pensé de ça?
Écoute, j'ai trouvé ça plutôt sympa. On revient aux bonnes vieilles habitudes avec... Alors, oui et non, c'est-à-dire que Roman intervient quand même en premier, c'est lui qui arrive en tant que catcher number one. Par contre, effectivement, on a cette intervention de Kayla qui lancera un peu tout le fil rouge de ce SmackDown, et pour ça, c'est intéressant. Et après, Roman qui arrive, et effectivement, qui dégomme tout le monde, hein, mais tout le monde en prend pour son grade, et je trouvais ça plutôt sympa. Ça va effectivement bien dans le sens du ton qu'il aborde, qu'il a en ce moment sur les réseaux sociaux, où il dit « il y a moi et puis personne d'autre ». Donc voilà, ça allait, c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé comment il s'est positionné. Mais par contre, dans le fond, il y a quand même un truc un peu vrai, c'est qu'il a tellement rasé tout le monde qu'on peut quand même se poser la question effectivement de qui va arriver derrière, quoi, clairement.
À force de raser gratis, il n'y a plus un mouton, donc ça commence à devenir un peu compliqué. Papy ?
Yes, c'est ça, il y a un peu trop de vrai dans cette promo finalement. Il y a trop de vrai dans le sens où elle la promo est bien, mais c'est aussi elle dit la vérité qui est que bah hormis Roman, il n'y a plus rien du tout côté SmackDown. Je cherchais l'autre jour, je me posais la question qui étaient les top face à SmackDown, et puis je pouf, c'était compliqué à trouver. Et c'est pas cet épisode qui va nous aider. Donc voilà, donc c'est alors la promo en elle-même est propre, c'est le public encore une fois, il mord à fond dedans. Ça nous donne le kick-off du fil bleu habituel qui sera encore lié à Roman. Mais bon, et, ouais, parfois ça pique un peu parfois dire un peu trop la vérité. Et là, du coup, bah, c'est vrai qu'on se dit, bah, c'est un peu mon souci avec les SS et puis bah, ces derniers SmackDown, c'est que il y a un peu trop de d'archi-domination de Roman et ça serait bien que quelqu'un arrive un peu à casser un peu ce monopole là et malheureusement vu que enfin on verra ce que ça donne avec Lesnar, mais bon je reviendrai après parce que en fait c'est plus par rapport à la Battle Royale ce que je veux dire, donc je garde un peu d'arguments pour plus tard.
Ok, bah écoute, tu cherchais qui étaient les babyface à SmackDown, je t'en propose deux dans l'escarcelle en l'occurrence, puisque ça va se suivre dans un tag team match avec Drew McIntyre et Jeff Hardy qui vont affronter Happy Corbin et Madcap Moss qui ne sortent jamais l'un sans l'autre, bien évidemment. On va avoir un petit match de 8 minutes avec surtout une grosse domination des babyface et surtout pour se rendre compte à quel point Jeff Hardy continue dans son overness total. On va avoir un match très très simple, hein. Ils vont pas se saouler beaucoup avec cette affaire là. On va presque avoir le minimum syndical, un match où il y aura que des signatures moves. À la fin du match, c'est Drew McIntyre qui va placer son Claymore Kick sur Madcap Moss. Il va faire le tag à Jeff Hardy qui va enchaîner avec la Swanton Bomb, suivi du tombé pour la victoire. Gagnant, Drew McIntyre et Jeff Hardy. Papy, du coup, les voilà tes babyface.
On pourrait dire ça. Je ne suis pas totalement convaincu parce que ils sont assez éloignés un peu du main event pour l'instant. Alors surtout Drew McIntyre, j'ai l'impression qu'il est vraiment très effacé depuis qu'il a SmackDown, mais t'as l'impression qu'il le garde au frais pour plus tard. Donc on verra ce que ça donne. Après voilà, on a quelque part on allait s'attendre à SmackDown avec des matchs sans trop d'enjeux, puisque bah tu te doutais qu'il y a une Battle Royale et que comme c'était pour le challenger numéro 1, il allait quand même mettre un peu les têtes d'affiche dans cette Battle Royale. Donc forcément, tu as 2-3 gars que tu imagines que va être utilisé, et notamment bah, les gars dont on parle là. Bon, c'était une petite mise en bouche, mais bon, c'était pour occuper le temps, on va dire.
Génial.
Bah oui, voilà, c'était, enfin, il n'y avait pas grand-chose derrière qui était écrit, qui était à raconter ou autre. J'ai trouvé le match en lui-même pas trop mal. Je trouve que Jeff Hardy, je sais pas s'il est blessé, s'il est moins bien, etc. Mais je le trouve quand même. Alors, il est très présent. Hein, il a une pop de fou, je te le confirme. Il y avait des Hardy dans tous les sens. Là, puis peut-être. Enfin, on verra après encore. Mais par contre, je le trouve très très à l'économie. Il a des sauts depuis la deuxième corde ou la troisième qui sont très légers. Alors, à part la Swanton qui finit bien, le reste, je sais pas s'il est si en forme que ça. Parce que autant il prend des bumps, voilà, qui bon, il faut être quand même un certain physique pour les prendre. Autant sur le reste, je le trouve un petit peu léger. Alors il commence à accuser son âge aussi, hein, donc il y a pas de souci. Mais je trouve que là, ça fait quelques matchs où j'ai trouvé un peu en dessous, quoi.
Jeff Hardy, cramé, non, Hardy.
Ouais, il fait un peu, hein.
Jeff Hardy, il a 44 ans et le problème, c'est que c'est un catcheur qu'un moveset quand même compliqué à développer sur les années, quoi.
Ouais.
Il a démarré à 16 ans, quoi. Donc
ouais, il a démarré à 16 ans, quoi. Donc fatalement, tu peux plus attendre le même genre de catch à la part de Jeff Hardy, effectivement. Mais
c'est sûr, mais même par rapport à il y a 6 mois, un an, quoi. Voilà. Donc c'est voilà l'impression que ça me donne. Après c'est propre, ça fait plaisir à tout le monde. Les méchants sont au tapis et tout le monde il est content. Donc rien à dire là-dessus après.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Allez, on continue en backstage. Backstage, Kayla Braxton qui va être là, discuter avec Aliyah. La petite nouvelle, Paul Heyman va débarquer, Aliyah va se barrer direct. Heyman, il veut en savoir plus sur les rumeurs qui concernent Brock Lesnar. Il explique que Lesnar qui se cache là derrière sa suite. suspension parce qu'il a peur de Roman Reigns. Et ça, finalement, ça va être un peu pendant les 1h25 de show, tout le truc entre Heyman et Kayla Braxton à propos de ce qui se trame avec Brock Lesnar. On retrouve le ring avec Sheamus, qui est à la table des commentateurs pour le prochain match, puisque le prochain match, bah, c'est le nouveau poteau à Sheamus, tout simplement le Ridge Holland, qui va affronter qui donc ? Eh ben, l'ancien poteau à Sheamus, en l'occurrence Cesaro, la fameuse mythique équipe du bar. Eh ben écoute, Sheamus, lui, il est en joie, il est un petit peu, ils sont tous les deux un peu dans le même cosplay avec Ridge Holland. Sur le coup, on se dit waouh, la vache et tout, il nous envoie quand même Cesaro, Ridge Holland, un peu du bon pâté. Alors, on se rend compte en plus que ce qui est fou, c'est que même, j'ai même envie de dire ce qui est fou, c'est que Ridge Holland, il est à côté de Sheamus quand ils sont sur la rampe en train d'avancer vers le ring, et on se dit quand même Ridge Holland. Merde, le mec, ancien numéro 8 de rugby, gars qui a été professionnel, etc., qui a joué en rugby league, gros mastar, et tu dis, ouais, effectivement, gros mastar, quoi. Ben, malgré tout, hein, tu mets le Sheamus à côté, et ben, le Sheamus, il fait toujours plus balèze que tout le monde. Et des fois, je me dis que l'équipe d'Irlande a perdu peut-être le plus grand numéro 8 de l'histoire du rugby, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est un autre débat. À ma grande surprise, ce Ridge Holland versus Cesaro ne va durer que 2 minutes 45. Ça va être très très vite expédié. En plus, tellement expédié que même Cesaro va terminer avec un roll-up pour finir sur Ridge Holland qui, sous des yeux ébahis, se demandant ce qu'il se passe. Et ben si, c'est Cesaro qui réussit à gagner le match. Là-dessus, Sheamus va monter sur le ring, mais Cesaro va partir. Bon, ça n'empêche pas de rester poteau avec Ridge Holland. C'était étrange parce que je pensais qu'entre Ridge Holland et Cesaro, il y avait moyen de nous sortir un peu de la marchandise et un truc plutôt sympa. Mais en fait, ça aura été très très vite évacué. Papy, Ridge Holland, déjà, l'impression que tu as sur ce bonhomme, le Cesaro, on le connaît par cœur. Hein, quasiment, il fait limite partie de la maison. Quoi, donc,
Ouais, mais c'est un début. C'est un gros physique, Ridge Holland. Mais par contre, pour moi, il était. Et déjà, c'est déjà le KNXT, il était déjà. Il est green, quoi, complètement. Donc, je suis pas trop étonné qu'on lui demande pas de faire des énormes matchs pour l'instant, qu'il fasse juste une petite démonstration de physique, mais qui, par contre, on le garde un peu en réserve pour montrer plus tard des trucs, quoi. Si tout le monde pro, ça risque de montrer ses faiblesses, quoi. Donc, même si Cesaro, il s'est bien catché, ils vont quand même le laisser petit à petit monter en régime, le Ridge. Et puis on verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est là il y a du beefsteak là. Hein. Quand tu vois ces gars-là dans le ring et plus Sheamus à côté, tu sais que ça va claquer du biceps dans la gueule et ça va picoter quand ça va frapper.
Géliel, pareil, cette découverte de Ridge Holland là.
Oui. Alors c'était pas long effectivement. Face à Cesaro, c'était finalement un bon adversaire. Le match se termine comme il doit se terminer, quoi. C'est-à-dire que lui commence, il peut pas tout de suite gagner un ancien prétendant au titre universel là tout de suite. Ça se termine avec un roll-up. J'ai trouvé la fin où il se termine par se mettre 2-3 claques avec. À la fin aurait pu se terminer de manière un peu plus sympa, mais bon, voilà, c'est fait. Il est arrivé, il est introduit, il est avec son pote Sheamus, Ridge Holland, donc voilà. Voilà, ok, ça se construit petit à petit.
Alors, on découvre backstage que Adam Pearce et Sonya Deville n'ont même pas terminé de booker le match de la Battle Royale, hein, de la Black Friday Invitational Battle Royale, n'est-ce pas, mes amis? Vraiment, on se demande ce qu'ils foutent, hein, d'ailleurs. Hein, quoi, franchement, ils n'ont pas encore fait la liste finale. Là-dessus, il y a le psychopathe écossais qui débarque et qui dit « Bah, écoutez, bah, moi, j'aimerais bien être ajouté tout simplement à cette Battle Royale ». Alors, moi, je vous avoue que j'avais pas vraiment doute sur le fait que Drew McIntyre allait participer à cette bataille royale, malgré le match de tag team d'ouverture. Bon, voilà, je sais pas si ce segment avait une utilité, mais je l'ai dit parce qu'il était dans le résumé, quoi.
Ah, il aura une utilité plus tard, finalement.
Ouais, tout à fait, ouais. Allez, single match derrière, on retourne dans le ring. Rick Boogs, hein, qui bosse beaucoup plus que son collègue, en l'occurrence Shinsuke Nakamura, va affronter Angel, qui est accompagné d'Humberto Carrillo. Et... Rick Boogs va faire son entrée, l'entrée habituelle finalement, et il met en avant Shinsuke Nakamura, alors que c'est lui qui fait tout le taf, la guitare, le chant, la pop avec le public. Ça marche bien avec le public, Rick Boogs, hein, je trouve. Hein. Son entrée se passe bien, il a été bien bien supporté là pendant le match, ça s'est plutôt passé plutôt de manière sympa. Et je m'attends pareil, je me dis, oh, on va avoir un truc un peu cool et tout. Bah non, en fait, 3 minutes 15. Alors, pour vous situer le tableau, il y a des tables avec de la bouffe autour. Hein. Les mecs vont se mettre un peu dessus, quand même, Boogs et Angel au milieu du ring. Pendant ce temps-là, Umberto Carrillo va aller piquer la guitare de notre ami Rick Boogs et va se lancer dans un riff solo. Ça va pas du tout plaire à Rick Boogs, bien sûr. Nakamura va faire le tour du ring et va venir renverser Umberto Carrillo sur la table pleine de bouffe. Voilà, on est tous morts de rire, tout est formidable. Mais là-dessus, pendant ce temps, profitant de la distraction, eh ben Angel, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va passer le finisher le plus dégueulasse de l'histoire de la WWE, en l'occurrence son Wing Clipper sur Rick Boogs. Victoire de Angel en 3 minutes 15. Célébration de nos amis Mexicanos. Voilà, gagnant Angel, mes amis. Allez, on va commencer par qui pour cette chose-là? On va commencer par notre archange. Alors, Géliel, dis-moi, Rick Boogs, Shinsuke Nakamura.
Le duo, alors vraiment. Bon, Rick Boogs amène une énergie qui est quand même sympa à voir. Il est rigolo, il a un moveset hyper original là, avec ses riffs de guitare là, au moment où il se fait un peu interrompre justement par Cario. Je ne sais pas où est-ce que ça peut aller, mais en tout cas, il est distrayant dans in-ring comme ringside. Donc, c'est voilà. Pour le coup, c'est lui qui était dans le ring. C'était assez divertissant aussi. Ça rebondissait un peu. Enfin, ça passait, mais c'était quand même pas du grand catch. Et puis ça écrit pas grand chose. Alors évidemment, la bouffe à côté du ring, c'était forcé que ça tombe dedans, que ça se jette au visage ou etc etc. Donc là pour ce coup-ci, c'était on tombe dedans. Un grand classique, hein, comme d'hab.
J'ai pas précisé au peuple de ketchup que c'est Thanksgiving aux États-Unis et que donc c'est pour ça cette profusion de nourriture en ce moment dans les shows de la WWE. Ils aiment bien
oui,
ça.
Mais là encore, c'était justement pour, je crois que c'est un peu genre les oubliés de les laisser de côté de Thanksgiving, et du coup on met de la bouffe et puis on se jette dedans, quoi. On appréciera comme on voudra.
Je n'entends plus, messieurs.
Ah bon? Bah si.
Ah, bah nous on s'entend tout pas.
Allô?
Nous on s'entend, tonton. Ah, c'est bon. Marrant parce que...
J'ai perdu mes compères, je sais pas s'ils m'entendent ou pas.
On si, t'entend, si. C'est toi qui les entends plus. Arrête de parler.
On était toujours sur Rick Boogs et sur Shinsuke Nakamura. J'ai perdu, j'entends, j'ai retrouvé Géliel. Géliel ?
On est là. Tu nous entends ?
On parle depuis tout à l'heure.
Ah bah je vous entendais pas. Ah bah écoutez, excusez-moi, on a eu un... Je sais pas ce qui s'est passé. On a eu un trou d'air. Alors, papy, on était sur Shinsuke Nakamura et Rick Boogs.
En plus, t'as coupé Géliel, mais...
Oui, j'ai fini. Vas-y, papy.
C'est fini, mais bon, ok. Bon, de toute façon, on va reprendre, mais... oui, effectivement, c'est l'ambiance... L'ambiance Thanksgiving, c'est. Alors, je suis d'accord avec toi. Il détourne peut-être un peu le sens de Thanksgiving, mais Thanksgiving de côté WWE, cette priorité de la bataille de bouffe. Et je pense que c'est finalement ancré un peu dans la mentalité. Et finalement, moi, ça me choque pas dans le sens où en fait, ça m'intéresse pas, mais je leur en veux pas en fait. C'est leur regard à eux. Donc, manifestement, ça plaît au public. Quand t'as Nakamura qui fait l'espèce de balayette là, Cario qui se casse la gueule. Ça plaît plutôt bien au public. Boogs, effectivement, marche super bien avec le public. Je pense que c'est l'unique raison qui fait que Nakamura est encore champion intercontinental. Parce que s'il n'y a pas Boogs, c'est pas avec ces trois moves tous les 10 ans qui ferait quelque chose, Nakamura.
Voir dans le roster.
Voir dans le roster, effectivement. C'est pour ça qu'il n'est pas encore impact, notre ami Shinsuke. Et puis voilà. Par contre, c'est marrant parce que alors, j'ai deux choses qui m'ont un peu étonné. D'une part, Garza, ça fait deux fois que c'est tout le temps lui qui gagne en fait. Et je me demande si, au lieu d'une tag team qui semblait se dessiner, est-ce que ça serait pas un Garza Challenger au titre intercontinental qui serait pas en train d'apparaître? Et ma deuxième interrogation, c'était peut-être un hasard, mais pour le Wing Clipper dégueulasse, ils l'ont fait dans l'autre sens cette fois-ci. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on voit le cul de Boogs tombé au sol, on voyait le dos de Garza et donc du coup la tête de Boogs coincée sous son épaule. Et je trouve que dans ce sens-là, le finisher est moins poirave que quand tu vois le mec tomber sur son cul. Donc je sais pas si c'est extrait ou pas, mais en tout cas, quitte à garder son finisher, autant qu'il le fasse dans ce sens-là.
Ouais, j'ai trouvé ça toujours aussi rincé, quelle que soit la manière. Donc bon, écoute. Hein. Ça, de toute façon, je crois que c'est parti pour durer. Donc, bon. Allez, on continue. Toujours dans les coulisses, hein, toujours le fil rouge avec Ella Bryson qui cherche à connaître maintenant les participants de la bataille royale, puisque c'est toujours pas booké. Donc elle va aller voir Adam Pearce, qui va lui répondre qu'une fois la liste terminée, il l'affichera devant son bureau. Braxton va passer au cas Brock Lesnar et Pearce va dire que pour lui, il n'y a aucun changement à ce sujet. Et il serait même d'ailleurs choqué si cette suspension était retirée si tôt. Adam Pearce, il se fait un peu de la gueule du monde, les gars, là, non ?
Oui, il a fait un joli flashback, Adam Pearce, là, quand il plisse les yeux, puis t'as les vidéos qui se remettent derrière, là, c'était
magnifique. Oui, exact.
Ouais, et exact. Tu vois qu'il plisse les yeux, puis à la coup, hop, page vidéo où tu revois comment il se fait défoncer par Lesnar, puis hop, ça revient sur lui avec ses yeux flissés. Puis, oui, si jamais il revient, ça sera dégueulasse, hein. Adam Pearce, il a pas de constance comme de tout ce qu'il fait depuis le début, tu comprends rien à son rôle. Il joue 15 personnages à la fois, le mec d'autorité Fex, le mec d'autorité Hill, l'ennemi de Brock Lesnar, l'ami de Machin Chouette, l'ami des enfants. C'est pas ce qu'il est, Adam Pearce, c'est un rien, ce mec-là.
Et je rajoute que quel que soit le rôle, il le joue pas très bien. Voilà.
Je l'aimais bien en plus, moi, au début, Adam Pearce, mais là, il n'y a plus du tout de consistance, là.
Ouais, moi aussi, je suis assez déçu, là, par la tournure du personnage, là. De toute façon, celui de Sonya Deville, c'est à peu près la même chose. Je trouve que ça tourne de rond. En plus, comme tu dis, en plus, il n'y a pas d'alignement clair. Ça change d'un weekly à un autre. C'est assez particulier. Donc, ça commence à devenir un petit peu lassant et pas super réussi, quoi. Donc, bon. Voilà. Allez. On continue avec Charlotte. Hein, les gars, là, ça y est. Hein, Charlotte arrive sur le stage. Michael Cole est sur le ring. Il va lui demander si elle est déçue par la défaite des Survivor Series. Elle lui explique qu'elle est surtout déçue par l'arbitrage, hein, et elle a bien raison, hein, tout le monde l'a vu. Becky Lynch, elle a triché, elle a eu de la chance au final, hein, elle s'est pas fait choper par l'arbitre, donc, voilà, tant mieux pour elle. Cole, du coup, il va lui demander c'est quoi la suite. Elle lui explique qu'elle est toujours la femme la plus dominante de l'histoire de ce business, hein, de l'histoire du divertissement sportif. Là-dessus, Toni Storm va faire son entrée et va expliquer qu'elle peut pas réaliser à quel point elle l'avait prédit. Charlotte Flair a été obsédée par Becky Lynch, elle a perdu. Maintenant, c'est elle qui est ici. Charlotte Flair va la regarder un peu de très haut, j'ai envie de dire, pour lui expliquer que, en fait, elle sait à peine qui c'est, Toni Storm, tout simplement, qu'elle est dans un autre level, quoi, dans un autre niveau. Mais malgré qu'elle soit à un autre niveau, elle va quand même vouloir taper Toni Storm. C'est pas bien, mais parce que cette dernière, elle va l'éviter et elle va l'envoyer en dehors du ring. Là-dessus, Storm va sortir du ring, mais Charlotte Flair va lui envoyer quoi ? Eh bah, tout simplement une tarte dans le visage, parce que oui, il y a aussi toujours de la bouffe ringside. Donc, suivi, ça va être vraiment d'une seconde, quoi. Elle va lui coller un premier truc, une deuxième tarte dans la tronche, tarte à la crème. Tout simplement à la Charlie Chaplin, et puis finalement elle va se barrer, tout simplement, Charlotte, et elle va laisser comme dira Corey Graves, une Toni Storm humiliated, et voilà comment se terminera le segment entre Toni Storm, la future number one contender, il me semble que là c'est parti pour, et Charlotte Géliel. Alors
moi je reviens juste au tout début du segment, où on a quand même vu un package vidéo du match des Survivor Series entre les deux. Et franchement, je l'avais dit, hein, que pour moi, ça devait être le main event, et puis je crois que c'était mon top. Et il y a quand même eu un sacré match, hein, à ce Survivor Series entre les deux, quoi, parce qu'on a quand même un package vidéo de 30 secondes, quoi, à peu près, et c'est que de l'ultra intense qui est présenté, quoi. Donc, voilà, c'était quand même un très gros match, quoi. Juste, voilà. Derrière, effectivement, Charlotte qui arrive, très contente d'elle, effectivement. Elle se fout de la gueule de Toni Storm quand elle arrive. Elle lui balance deux tartes réelles, hein, deux tartes à la crème, et s'en va. Alors, c'est sans doute la future feud et la future challengeuse, mais alors quand même, là, il n'y a pas eu beaucoup d'opposition, il n'y a pas eu beaucoup de construction. Enfin, là, elle est 300 000 km au-dessus de Toni Storm. Charlotte Flair, il va falloir rétablir un petit peu le truc pour la rendre un peu crédible, parce que là, elle arrive comme n'importe quel rookie qui viendrait défier n'importe quel champion de WWE, quoi. Voilà, donc il y a du boulot encore, il y a du boulot, et je pense que ce coup-là, ça n'a pas ramené Toni Storm proche et crédible de Charlotte pour une quelconque feud, quoi. Voilà.
Papy ?
Yes, pour moi, c'est même sûr que Toni Storm, c'est la challengeuse numéro 1, parce qu'elle avait plutôt été identifié comme ça par Charlotte elle-même, qui avant les Survivor Series avait dit à Tony, ok, bah je me tape Becky Lynch, puis après ce sera ton tour. Mmh. Donc techniquement, pour moi, même si il y a jamais eu de match signé, voilà, etc. Mais de fait, elle était la challengeuse numéro un. Effectivement, là, je suis d'accord avec toi, JL, sur le package vidéo. Je me suis dit, j'ai l'impression que le match est encore meilleur que ce que j'avais comme souvenir, alors qu'il était tout récent. Je me suis dit, c'est vrai qu'on a vu ça quand même. Mais par contre, Tony Storm, je suis pas sûr qu'elle sorte méga grandie de ce segment. En fait, c'est étonnant que ce soit la face qui se prenne des tartes à la crème. Normalement, c'est plutôt lui qui se fait humilier. Et je sais pas, c'est peut-être aussi pour montrer qu'elle la pousse à bout. On verra dans les prochaines semaines, mais j'espère que ça va pas trop traîner autour du pot, puis que rapidement elles vont se faire face à face, c'est madame.
Je pense que ça va être tout simplement une rivalité de transition et que Tony Storm va se faire marcher dessus certainement à Day One. Si le title shot a peut-être pas lieu durant courant décembre là, dans un des SmackDown, c'est possible aussi. Je suis pas client. Hein, moi, la bouffe et tout ça, là, je vous avoue, là, vraiment. Alors, je comprends hein, l'histoire que le public américain, lui, apparemment, il est enchanté, que culturellement, c'est comme ça, qu'à la WWE, c'est historique. J'aimais pas ça dans les années 80, j'aimais pas ça dans les années 90, et j'ai toujours, au 21e siècle, continué à ne pas aimer ça. La tarte à la crème, la tarte à la crème dans le catch. Hein. C'est, c'est toute une histoire. Bon, bref, écoutez, en tout cas, pour moi, ça reste une rivalité de transition. On va voir Tony Storm. Mais comme tu l'as dit, papy, je crois, Charlotte paraît tellement, mais à des années-lumière au-dessus que la pauvre, on a l'impression qu'elle va se faire surtout manger tout cru. Et on verra la suite. Allez, on va continuer de parler un petit chouï des femmes parce que on aura eu une vidéo un peu plus tôt avec Sasha Banks. Et qui va rejoindre Sonya Deville, hein, qui va lui expliquer qu'elle l'a mise en capitaine, mais en fait on lui a donné une team de traite, quoi. Et elle a pas tort, la pauvre Sacha, hein, parce qu'on va revoir les images effectivement où elle... mais en fait elle se fait pourrir par toutes les nanas de l'équipe, quoi. Et en particulier Shotzi, bien sûr, qui lui en veut encore plus. Donc pour elle, la défaite c'est de la faute de Sonya Deville. Et donc si Banks elle avait pu choisir son équipe, il y aurait eu déjà Naomi à la base, et au moins elles auraient certainement gagné. Alors est-ce que Deville au final elle a peur de Naomi, quoi? Donc Sonya Deville elle lui explique que non, que si elle aime tant Naomi, bah ils ont qu'à faire équipe ensemble contre Natalia et Shayna Baszler, tiens. Allez, tiens, si on bookait un truc comme ça, quoi. Et puis Sonya Deville, elle va aller à la table des commentateurs pour le prochain match. Tag team match, Naomi et Sasha Banks vont affronter Natalia et Shayna Baszler. C'est facile le catch quand ça s'enchaîne comme ça dans le monde merveilleux du show bleu. Et on va avoir un match formidable, messieurs. Puisque là, on va pas avoir un match de 2 minutes 45. Non, on va avoir un match tag team féminin de 10 minutes 15. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que Tyson Kidd a dit non, mais les gars, là, cette semaine à SmackDown, là, j'aimerais pouvoir booker un match féminin de plus de 1 minute 30. Et là, peut-être que Vince, à ce moment-là, est aux toilettes. Et il a fait vite passer ça dans le script. Et hop, il a eu droit à un match de 10 minutes 15. Et où j'ai trouvé une Naomi assez flamboyante, avec une belle tenue. Là, j'ai bien aimé ses collants glow. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Sasha Banks, bon, j'imagine que l'ignoble ringside devait être collé au canapé. Et Natalia Shayna Baszler, donc team, qui team ensemble. Bon, Natalia, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, elle était toujours en équipe avec Tamina, qui a fait quelques apparitions solo dernièrement. Et du coup, bah, Shayna Baszler va pouvoir un peu dérouler pas mal de catch, un petit peu. Ça va nous changer. Et finalement, bon, moi, j'étais plutôt lancé sur une affaire. Bah, Shayna Baszler, elle va dominer le truc, là. Et soit c'est Sasha Banks qui remporte la victoire. Et puis ça va envoyer du bois. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Natalia va être... beaucoup plus présente que ce que je pensais dans le ring, va avoir plusieurs near falls. Naomi va revenir, va tenter son finisher, ça va pas marcher. Finalement, il va y avoir distraction et Naomi va pouvoir coller un roll-up à Natalia. Donc, ça va pas se terminer entre Banks et Shayna Baszler, cette affaire. Et victoire de Naomi et Sasha Banks grâce à ce roll-up. Après le match, Naomi va aller voir Sonya Deville qui est en train d'applaudir et vont un peu se taunter, quoi. Donc, un match un peu... surprenant au terme de ce qui se passe au terme de in-ring, mais j'ai l'impression, alors là, avec pour le coup zéro histoire derrière cette affaire, mais peut-être que vous avez trouvé cette histoire. Papy.
Bah, l'histoire qui continue, c'est l'histoire de Sonya Deville contre Naomi, quoi.
Oui, et ça, d'accord.
C'est,
ouais.
C'est le truc qui est en permanence, et les faces qui, du coup, supportent leur copine, et puis, du coup, en face, tu leur allonges des heels.
Ouais. Du coup, j'avais une question pour toi, en fait, parce que après avoir vu le segment entre Charlotte et Tony, voir ce match et puis voir par exemple une Shayna Baszler ou une Sasha Banks, ça t'a pas un peu gratté le derrière de l'oreille?
Non, pas du tout. Bah, alors, je vais être désolé pour toi, tonton, mais Shayna Baszler, je sais bien que tu as envie qu'elle remonte dans la carte, mais ça fait quand même des mois et des mois qu'elle est au fond du gouffre, là, Shayna Baszler. Elle ne fout rien. Hein. Elle sert de larbin à Nia Jax, elle sert de larbin à. Comment elle s'appelle, Sonya Deville, et là maintenant elle est derrière Natalia, donc Shayna Baszler, elle est pour moi, elle est pas du tout en haut de carte, quoi. Elle sert un vol des panneaux, j'espère aussi moi qu'elle aille plus haut, mais elle a rien montré ces derniers mois qui donne l'impression qu'on compte sur elle. En fait, elle c'est comment on pourrait appeler ça, tu sais, les hommes de main, femmes de main numéro X, voilà, elle est méchante, voilà, elle sait faire que ça. Mais pour moi, elle a galéré pour battre, elle était avec Sonya Deville pour battre Naomi, mais à chaque fois elle trichait pour gagner parce qu'elle pouvait pas gagner toute seule. Je pense qu'elle pourrait se faire battre par n'importe qui dans le roster actuellement chez Navazer. Quant à Sasha, Sasha elle est en rivalité pour moi avec Chelsea Blackheart. Et tant qu'elle sera dans cette rivalité-là, elle sera pas ailleurs dans le roster. Quelque part, c'est pas plus mal parce que ça permet d'avoir des nouvelles têtes et d'équilibrer un peu les rivalités et pas d'avoir que Sasha versus Charlotte, parce que si tu misais que sur les filles qui marchent, tu aurais que ces deux filles-là. Mais non, je suis pas du tout étonné, moi. Et au contraire, je suis même content qu'ils donnent du temps d'antenne aux filles pour qu'elles puissent se catcher. Par contre, voilà, les filles qui ont de l'avenir dans la carte, je pense que c'est Charlotte, Tony Storm, Shotzi, Naomi et Sasha. Par contre, Natalia, Shayna Baszler, peut-être un jour pour la tag team, les 7 heures tag team pour changer, mais bon, sinon pas plus loin que ça. Hein.
Et elle
Pareil, moi le match m'a bien plu. Très content de voir. Alors il y avait un truc un peu sympa, elles étaient vraiment copines, Banks et Naomi, ça rendait super bien. Là où je suis quand même, enfin c'est un match qui raconte pas grand chose, qui pousse pas vers grand chose. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que, enfin dommage, à la place de Natalia, il y avait peut-être moyen de mettre une jeune. Alors peut-être pas Alia qui est encore vraiment vraiment verte, quoi, mais peut-être quelqu'un d'autre pour ce match un peu gratuit, une heel quelconque à mettre un peu en avant. Alors je dis ça en regrettant parce qu'en plus Natalia, je trouve qu'elle a fait un énorme match, quoi. Elle a fait des moves très sympas, hyper dynamiques. J'ai trouvé vachement bien. Je trouve que, enfin, comme Papy dit, Baszler, elle est au fond du fétou, quoi. On la sent pas en grande forme physique, on la sent pas en grande forme in ring. Elle arrive avec, effectivement, elle est le larbin de tout le monde. Elle gagne difficilement. Enfin, c'était très moyen. Et c'est même pas elle qui. Alors, c'est Natalia qui prend le pin, mais c'est parce que Natalia qui est la plupart du temps dans le ring, et c'est pour ça et qu'elle bataille plus que Shayna Baszler. Donc voilà. Après l'histoire, la fin où les deux, où Naomi va se confronter avec Sonya Deville, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas j'ai trouvé le moment très sympa. Il y a eu du bon cash, des super moves. À un moment il y a un move de Naomi là où elle emmène les deux dans les cordes, Baszler et Natalia, et elle revient en arrière pour faire son truc avec les jambes grand écart là par terre. Enfin c'était vraiment sympa, quoi. Vraiment Natalia et Naomi ont été, je trouve, vraiment vraiment au top, très très grande forme, et je pense que ça a vraiment drivé tout le match pour un moment comme tu disais, c'est quoi, 10 minutes hein, c'est ça à peu près?
Ouais.
Donc j'ai trouvé ça très sympa, moi, et c'était intéressant d'avoir effectivement un vrai match sympa de filles au milieu du SmackDown.
Shayna Baszler habillée pour l'hiver.
Ah ouais, franchement.
Ah, en tout cas, moi j'étais surtout surpris par le temps qu'on a donné aux filles pour sortir un tag team match de bonne qualité. Et moi aussi j'ai été assez emballé par tout le moveset proposé et tout ça. Et avec plutôt une chouette alchimie entre les quatre. Et du coup, ça a donné un match assez sympa. Et donc voilà, on va voir. Naomi, il a quand même été rappelé au cours du segment quand même qu'elle était former two times champion de SmackDown. Tu vois, il y a eu quelques rappels pas mal sur le palmarès et les accomplissements de Naomi, donc on sent qu'ils veulent un peu la remonter dans l'affaire, donc c'est plutôt bien. Ça donne de la compétition, en tout cas, dans la division féminine de SmackDown, et je vais pas m'en plaindre. Allez, on continue. On va avoir, alors, quand même, parce que ce segment, quand même, quoi. On va avoir la fameuse liste. You made the list ou pas? Eh ben, affichés devant donc le bureau, hein, comme au taf, quoi. Alors, en même temps, ils sont au taf, hein. Donc, ils regardent s'ils sont sur la liste des participants de la Battle Royale. Là-dessus, il y a Drew McIntyre qui arrive tout muscle dehors et qui vient voir s'il y a son nom. Et Sheamus, tout sourire, qui lui apprend qu'il n'est pas dedans. Il rigole et il s'en va. Là-dessus, tous les catcheurs partent, parce qu'on part pour notre main event, excusez-moi, peuple de catcheurs, je ne voulais pas préciser, mais ça y est, on part pour notre main event, tout le segment du main event. Tous les catcheurs sont déjà sur le ring pour la bataille royale. Qui va faire son entrée, parce qu'il y a toujours quelques catcheurs qui ont droit à leur entrée spécifique. Et il va y avoir Ricky, la belle vie, qui va faire son entrée sous vos applaudissements. Ensuite, qui va arriver? Eh ben, va arriver Drew. Alors, il y a Sami Zayn aussi, hein, qui a eu droit à son entrée, hein, si je me trompe pas. Et qui va son la musique se déclenche et qui débarque? Drew McIntyre accompagné de son épée. Et là, Drew McIntyre va tenter d'éventrer tout le roster en direct live à la télévision américaine. Alors moi ça j'ai trouvé ça, voilà, le mec monte sur le ring et commence à balancer des grands coups d'épée là du haut de ses 2m05 et de ses 125 kilos là. Donc tout, évidemment, vous imaginez bien que tous les participants au match se précipitent ringside pour échapper à la décapitation. Je crois que c'est Adam Pearce, hein, vous me trompez, c'est ça, hein, les gars, hein, Adam Pearce, il dit finalement, oui. Non, ça va pas être possible, on peut pas faire ça comme ça. Drew McIntyre va s'agenouiller au milieu du ring, tel Jésus, prêt à recevoir l'extrême onction, mais non, c'est pas ce qu'il va recevoir, on va tout simplement lui donner un ticket pour le match. Coupure pub! Et on repart. Et alors, pour vous faire un descriptif très rapide de ce match, bah écoutez, ils sont un sacré paquet, mais alors le problème déjà dans ce match, c'est que dans cette Battle Royale, il y a énormément de mecs de la Tag Team Division, quoi. Donc déjà, avec eux, c'est un peu dur de suspendre son incrédulité en se disant « Ouais, lui, il va gagner le title shot pour être number one contender à Roman Reigns. » Donc ça, c'était un petit peu difficile. Après, par contre, le match va avoir pas mal de rythme. Ça va être plutôt sympa, finalement. Ils vont être tous plutôt chauds. On va avoir un truc finalement assez traditionnel, mais qui va tenir la route. Alors, je vais quand même vous donner très très vite le line-up définitif. Sami Zayn, Angel, Cesaro, Drew Gulak, Eric et Ivar, Happy Corbin, Umberto, Jeff Hardy, Jinder Mahal, Mace, Madcap Moss, Mansour, Rick Boogs, Ricochet, Nakamura n'est pas venu bosser, papy, hein, Ridge Holland, oui. Chunky et Sheamus. Donc on va avoir d'abord un premier écrémage au niveau des Tag Team Division. Ils vont tous disparaître les uns après les autres. Hein. Umberto, Angel et compagnie. Tout ça, ça va dégager. Cesaro va partir aussi assez vite. Jinder Mahal et Mails, pareil, dégage. Hop, hop, hop. Madcap Moss va avoir une mésaventure puisque c'est tout simplement son poteau Happy Corbin qui va le dégager du ring. Mansour va aussi faire partie des victimes collatérales. Rick Boogs également. Ridge Holland qui aura fait un petit tour et puis s'en va. Shanky, le grand monstre indien, hein, dont le poteau Virman est annoncé à Raw depuis à peu près 6 ans, lui aussi va dégager très très vite et on va vite se retrouver avec tout à coup une grosse période de domination de Eric et Ivar qui sont un peu les derniers survivants et qui vont profiter un peu de tout ça, avoir une grosse altercation avec Sheamus. Finalement, Eric et Ivar vont sortir Sami Zayn du ring. Sami Zayn qui va partir faire une sieste à côté des escaliers et qu'on ne va plus revoir pendant à peu près 5 minutes. Ça va continuer pour Eric et Ivar, mais Sheamus, qui est bien décidé à pas s'en laisser compter, hein, va se lancer dans une grosse baston, un gros brawl dont il a l'habitude. Même en se faisant choper par les deux behemoths des Vikings, là, et bah, il va réussir à s'en sortir et il va continuer à tabasser tout le monde et à tel point que bah, il va sortir les Viking Raiders. Et on se retrouve avec un Fatal 4-Way, Sheamus, Jeff Hardy qui aura passé aussi beaucoup de temps à faire la sieste, Happy Corbin et Jeff Hardy. D'ailleurs, il y a une scène assez marrante puisqu'il y a Ricochet donc dans le Fatal 4-Way également. Et il y a une scène marrante où il y a Sheamus et Ricochet qui sont en train de se la donner au milieu du ring avec Ricochet qui saute partout et machin et tout ça. Et dans le ring, t'as Jeff Hardy et Happy Corbin qui sont couchés par terre, tous les deux l'un à côté de l'autre, quoi. Et qui sont en train de regarder. Alors, évidemment, je sais, il faut un peu... mais moi, ça m'a fait rire parce que j'avais l'attention portée là-dessus. Et je voyais les deux mecs, en fait, en train de faire la sieste et de regarder ce que faisaient Sheamus et Ricochet. Donc, c'était assez cocasse. Et finalement, au bout du bout, bah, ça va se passer que Ricochet, bah, le pauvre, va se faire dégager parce que là, il y a un déficit physique face aux trois autres qui est beaucoup trop compliqué. Il va se prendre d'ailleurs au passage un Shock Slam Backbreaker par le Happy Corbin, qui était un peu moins happy sur ce coup-là. Ricochet dégage. On se dit, oulala, Sheamus, là, avec la puissance qui dégage depuis le début de l'année, ça va peut-être être chaud. Et ben, que nenni, mes amis, puisque Happy Corbin va trouver le moyen de dégager le Great White. Et on va se retrouver avec un final hardy. Happy Corbin sous une pop stratosphérique du peuple de Greensboro, North Carolina. Là, en ce moment, Hardy, je ne sais pas ce qu'il a fait, hein, mais là, ça fait quelques semaines, là, il a le droit à des pops partout où il passe. On a l'impression que, je ne sais pas ce qui se passe avec Jeff Hardy, peuple de catch-up. Expliquez-moi dans les commentaires ce qui se passe avec Jeff Hardy, back to 2009. Et finalement, ça va bien se passer pour le babyface, qui va réussir, après quelques passes d'armes, à sortir Happy Corbin, la cloche retentit, et je le dis très très nettement parce que c'est très important, la cloche a retenti, Jeff Hardy est nommé vainqueur de la Battle Royale et donc se retrouve number one contender face à Roman Reigns, mais à ce moment-là, Sami Zayn qui venait de sortir d'une sieste réparatrice revient sur le ring et balance Jeff Hardy qui à ce moment-là était sur le turnbuckle, donc c'était assez simple, il le balance et Jeff Hardy se retrouve le cul par terre, c'est la faute à Voltaire, Sami Zayn est annoncé vainqueur de la Battle Royale et donc se retrouve propulsé number one contender de la tête de la table, mais après le match, on voit en fait sur les écrans la Bloodline hein, qui a regardé toute la Battle Royale avec un sourire un peu narquois, ça rigole pas mal, hein, ça se fout de la gueule pas mal de Sami Zayn, hein, vous direz ce que vous en avez pensé. Kelly Braxton va s'approcher de Sami Zayn pour faire l'interview d'après-match parce que pendant tout le match, on a Adam Pearce et Kelly Braxton qui sont ringside avec Michael Cole et Pat McAfee. Et Kelly Braxton nous annonce qu'elle a une breaking news. La suspension de Brock Lesnar est officiellement terminée. Il sera présent à SmackDown la semaine prochaine et le show se termine sur l'image de la Bloodline qui semble un peu hébétée parce que vient d'annoncer Kelly Braxton. Les Uso ont un regard légèrement agressif, je dirais, envers Paul Heyman, et la tête de la table est extatique. Ceci dit, à aucun moment il n'est annoncé que Sami Zayn perd son shot. Hein. Attention, entendons-nous bien. C'est juste, on nous annonce le retour de Brock Lesnar à Friday Night SmackDown dès la semaine prochaine. Voilà, ainsi se termine ce gros main event avec un gros play-by-play. Donc excusez-moi mes amis d'avoir monopolisé la parole, mais là cette fois-ci je vais vous la laisser. Papy, c'est un International Battle Royale. Alors.
Alors, il y a tellement de trucs à dire. Déjà la line-up, on va commencer par ça, line-up. Donc du coup, on a un line-up qui décide de dire, tiens, on va faire une Battle Royale avec tous les mecs de SmackDown, sauf Drew McIntyre et Nakamura. Tiens comme ça. Hein, on va pas prendre de risques. C'est jamais que deux gros stars. On va pas les mettre dedans. Ça, c'est plus simple. J'ose espérer. Bon, Nakamura, on va dire que c'est parce qu'ils veulent pas le mettre deux fois champion. C'est juste qu'il veut pas cacher cette feignasse. Mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, McIntyre, faudra quand même nous expliquer quoi. Si c'est juste la bisbille qu'il y a eu avec Adam Pearce et Sonya Deville en début de show qui explique qu'ils sont exclus de la liste. Ça me semblait léger. J'espère qu'on aura quand même une manipulation de Reigns ou de Sheamus ou je sais pas quoi d'un pouvoir supérieur pour nous l'expliquer. Mais sinon, si c'est juste parce qu'on avait la flemme de trouver une manière de le sortir du ring, ça sera très très léger. Même si je sais qu'on oublie facilement dans le monde du catch, je serais quand même un peu chafouin. Concernant le match, du coup, Jeff Hardy toujours. Avec sa grosse pop, pour moi, c'est lui finalement qui se révèle être le face actuel le plus important. Tiens, au fait, j'ai oublié quelqu'un, il manque aussi King Woods. Mais bon, c'est pareil, hein, il est trop important pour pouvoir faire une Battle Royale.
Passons. Un match de 15 minutes, j'ai oublié de donner le timing.
15 minutes, je vais laisser faire mon 15 minutes hein, dans mon résumé. Jeff, top face, il se fait voler à la fin par Sami Zayn. Effectivement, je pense que le fait qu'ils aient lancé la musique avant va permettre de dire que Zayn n'est pas forcément le vrai vainqueur. En plus, lui, ça l'arrangera, comme ça, il sera à fond dans son personnage de « on m'a volé un truc ». Et puis, Lesnar qui arrive, effectivement, dans le show, au moment, tu avais Paul Heyman qui avait dit « si on n'a pas la réponse du retour au nom de Lesnar d'ici la fin du show, t'es viré, Kayla Braxton ». Du coup, ça clôture cette histoire-là. C'était pas forcément hyper bien joué, j'ai trouvé, parce que du coup, je comprends pas pourquoi il l'annonce et pourquoi Sami Zayn est vénère finalement, alors que ça n'a pas de conséquences pour lui. Alors, c'est peut-être qu'il est vénère parce qu'on le met pas assez en avant. Je pense que ça sera pareil, ça sera axé là-dessus lors du prochain SmackDown. Mais bon, c'était un petit peu précipité la fin, j'ai trouvé. Mais ça se regardait bien. En tout cas, la Battle Royale se regardait bien. Et à noter, tu l'as souligné, J'ai trouvé que Matt Capmos était extrêmement bien mis en valeur pendant tout le match. Il élimine un paquet de gens. Je me demande si c'est pas lui qui élimine le plus de gens. Et puis, au final, il y a le petit segment drôle avec Corbin où il fait style de l'éliminer. Ah non, c'est une blague. Puis, hop, derrière, Corbin l'élimine. Mais non, c'est moi qui t'ai fait une blague. Bon, c'était, moi, personnellement, ça m'a fait un petit peu sourire. Donc, je trouve que c'est pas si mal. Donc, chapeau, je tire ma casquette à Matt Capmos.
Génial.
Bah pareil, un final qui était finalement très sympa, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aussi. Vous m'entendez, oui ?
Ouais. Bien.
Ok. Donc, un roster fouillis, hein, où ils ont mis tout ce qu'il y avait, tout ce qui restait, on va dire, effectivement. Bon, c'est pas, finalement, ça passe bien, au moins, sur les 10 premières minutes, où ça se bastonne dans tous les sens. Il y a eu quelques moments, effectivement, un petit peu sympas. Je suis d'accord avec Papy, Matt Capos m'a un peu moins énervé que d'habitude, enfin le duo là, et puis ils ont fonctionné un peu comme ils fonctionnent avec tout le monde, et du coup ça c'est qu'ils se l'appliquent aussi à eux, bah, c'était finalement assez agréable, le mode un peu on rigole. Sinon plus ça avançait, plus c'est devenu effectivement un peu sérieux. Comme d'habitude, j'étais content de voir Ricochet dans le top 4, comme d'habitude il s'est fait éliminer, il n'est pas allé au bout, bon, c'est quand même dommage. Toute la fin un peu spéciale, et puis au moment où je vois Jeff Hardy qui gagne là, je me dis putain, au moment, enfin sur ce weekly, je l'ai jamais trouvé aussi mollasson, aussi faible, et c'est lui qui va aller attaquer Roman Reigns. Je me suis quand même posé des questions. Pas longtemps, parce que derrière, effectivement, Sami Zayn qui a déboulé. Alors donc, il a célébré, etc., etc. J'étais assez aussi conquis par la tête globale, mais rigolard de toute la Bloodline qui prenait ça vraiment pour du petit lait, en se disant, de toute façon, que ce soit n'importe lequel des 25 qui va se faire dégommer. Donc vraiment, quand ça a été Sami Zayn, ils rigolaient tous et c'était vraiment très, très, très bon. Après, en fait, juste pour revenir sur ce que tu disais aussi, Papy, je pense que Sami Zayn, il est énervé parce que Caleb Reston, qui devait l'interviewer, à un moment, elle ne l'écoute plus, elle le coupe et elle ne revient plus du tout vers lui. Et je pense que c'est aussi un peu ça qui l'énervait, qu'on lui ait coupé son interview, etc., etc. Après, possible. Ouais, enfin, il m'a semblé. Après, Brock Lesnar, suspension levée, qui revient la semaine prochaine. Je suis vraiment mitigé par rapport à ça. Pour moi, c'est ils font une battle royale au final. Qu'est-ce que va devenir Sami Zayn? Est-ce que ça va aller au bout? Il est number one contender, mais est-ce que ça va aller au bout? Puis finalement, est-ce qu'on en a même quelque chose à foutre? En fait, c'est ça la question, avec Brock Lesnar qui revient. Et du coup, bah, il y a un petit peu de tout ça pour ça. D'une part, et d'autre part, il y a aussi un peu de dire, à part Brock Lesnar, en fait, je veux dire, s'il n'y a pas Brock Lesnar, ça n'intéresse personne et il n'y a plus rien à opposer, effectivement, à Roman Reigns. Et c'est ce qu'on disait un petit peu au début avec sa promo mi-vérité, un peu pénible à entendre, mi-promo. Et du coup, hors Brock, il ne se passe rien à SmackDown contre Roman Reigns, et je trouve ça vraiment, vraiment décevant, parce qu'ils auraient pu construire peut-être quelque chose de bien plus crédible à opposer à Roman Reigns durant la période de suspension, on va dire, de Brock Lesnar. Je ne sais pas comment ça va se passer, et surtout si c'est Brock Lesnar qui est repris. Mais voilà, j'ai vraiment un goût d'inachevé dans la bouche, là, sur le fait de dire on n'a rien construit, et puis du coup, solution de facilité, hop, on ressort le Brock du chapeau. Tout ce qui a été semi-construit, mal fait, entre-temps, de toute manière, part à la poubelle, et notamment la 25, la Battle Royale avec la victoire de Sami Zayn. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais là, à l'issue du weekly, j'étais quand même un peu déçu et un peu mi figue mi raisin sur cette fin de show, quoi. Voilà.
Ouais, c'était. Moi, j'ai trouvé que le match était plaisant. Je trouve que c'était une Battle Royale assez sympa. Et c'est plutôt, moi, ce que j'aimais pas, en fait, c'était le line-up au départ. C'est-à-dire que pour moi, il y avait trop de mecs de la Tag Team Division dans cette Battle Royale, quitte à réduire peut-être un peu même le nombre de catcheurs. Mais,
ils ont mis tout le monde, en fait.
Mais ouais, parce qu'en fait, ils ont mis tout le monde. Donc, c'était. Enfin, pour moi, ça n'avait pas trop de sens, ça. Parce que tu sais bien que Ivar ou que Angel ou que machin, jamais ils auront. Donc, autant pour moi, mettre que des lutteurs solo, mais quitte à réduire un peu la Battle Royale en elle-même. Et proposer peut-être un truc un peu plus fluide aussi. Mais par contre, j'ai rien à redire sur le booking du match en lui-même, quoi. Vraiment, j'ai trouvé assez sympa, les éliminations s'enchaînaient bien. Il y a quelques petites interactions au sein même de la bataille royale qui sont plutôt cool. Il y a un Sheamus en ring général. Il y a un Ricochet qui, comme tu l'as dit, Géliel, voilà, comme d'habitude, termine dans le Fatal Four Way ou dans le dernier trio, quoi que ce soit, mais qui se fait rétamer la gueule finalement. Et puis finalement, ce vainqueur de Sami Zayn, moi, j'étais pas mécontent. J'étais vraiment. J'avoue que là, alors là, j'ai zappé le Sami Zayn qui dormait ringside. Donc quand Jeff Hardy, quand il y a eu la cloche, que c'est pour ça que j'ai précisé l'histoire de la cloche, parce que la cloche a sonné, donc pour moi vraiment le match était vraiment terminé en catch, normalement le cloche sonnait, match terminé quoi. Et quand je revois Sami Zayn redémarrer et faire tomber Jeff Hardy, je me dis mais merde, est-ce que c'est vraiment valable ça? est-ce que ce point de règlement là, il n'y a pas quelque chose?
Surtout la cloche a sonné hein, pour Sami Zayn.
Et la cloche ressonne pour Sami Zayn, ouais, exactement, ouais. Voilà, donc la cloche ressonne pour Sami Zayn. Donc du coup, je me suis dit, bon bah ok, d'accord, ok. Mais bon, voilà, c'est un détail un peu à la con. mais sinon, c'était plutôt sympa. Puis par contre, papy, je te rejoins là sur l'histoire de Drew McIntyre, quoi. Ouais, vraiment là. Mais qu'est-ce qu'ils font avec le bel homme là, sur cette histoire là de Battle Royale? Ça sert pas à grand chose en plus, quoi. Enfin bon, bref, je sais pas où ils veulent. Et puis je termine sur le point Brock Lesnar. Moi, je suis plutôt content hein, que Brock Lesnar revienne, très franchement. Je suis d'accord avec toi, Gilles, quand tu dis que ouais, le problème, c'est est-ce qu'on va vraiment s'y intéresser? Et puis que est-ce qu'il n'y a pas que lui, finalement, pour s'opposer à Roman Reigns? Et je trouve que tu as raison. Oui, effectivement, en ce moment, il n'y a que Brock Lesnar à opposer à Roman Reigns qui puisse être suffisamment crédible pour se dire « Ah, Roman Reigns peut perdre le titre ». Moi, ce qui m'étonne finalement dans ce retour de la bête, c'est que c'est presque précoce. On est habitué à ces longues absences, donc du coup, finalement, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et est-ce qu'ils vont nous booker un truc pour avoir un match à Day One alors que ça aurait été, par exemple, une belle affiche au Rumble en un contre un, là, un Reigns-Lesnar. Donc je suis un peu surpris. Est-ce qu'ils veulent pas donner le titre à Lesnar au Day One pour mettre Roman Reigns dans le Rumble aussi? Je sais pas. Donc je vais y réfléchir à cette affaire. Mais globalement, j'ai trouvé que ce main event tenait plutôt la route, c'était plutôt sympa et terminé comme ça. J'aime bien les matchs comme ça, collectifs, à multiples catcheurs, donc c'était plutôt cool. Allez, on va de toute façon lui donner la sanction finale à ce monde merveilleux du show bleu. Et on va commencer avec l'archange Eliel qui va nous donner son top, son flop et sa note.
Alors mon top, il ira clairement à Naomi avec. Parce que après l'avoir vu parler, après l'avoir vu se faire écrabouiller en 1v2, etc., etc. Et puis bon, on n'a toujours pas compris hein, l'animosité ou ce qui se passe avec Sonya Deville. Néanmoins, elle a eu 10 minutes de catch et on a vu que franchement, elle tenait parfaitement la route et qu'elle était largement au niveau et bien au-dessus même de certaines ridicules qu'on a pu voir. Par ailleurs, donc qu'on lui donne du temps, qu'on lui construise des histoires et qu'éventuellement on la ramène vers la Bloodline, il y aurait des trucs tellement sympas à écrire. Voilà, donc très content. Donc mon top va à Naomi. Mon flop, à quoi je peux le donner? Je sais pas trop. Peut-être au côté à Toni Storm où je trouve que pour la construction d'une un top flop purement féminin. Pour la construction d'une opposition avec Charlotte, je l'ai trouvé quand même très très en dessous, quoi. Ça aurait mérité au moins une réponse à la première tarte à la crème de Charlotte. Ça n'a pas été le cas, elle en prend une deuxième. Du coup, voilà, elle est vraiment montrée ridicule sur ce coup-là. Donc j'ai pas été emballé par le segment, en plus de la bouffe où je suis jamais ultra fan de ce truc. Voilà, et puis la note, elle va pas être élevée parce que avec le final où je me pose pas mal de questions, où je suis un peu déçu de le voir revenir comme tu dis, peut-être un peu si vite, et puis avec si peu de choses qui ont été construites entre temps, je vais partir sur un 2-5, et je crois que c'était ma note également au Raw, donc je vais mettre un 2-5 à ce SmackDown, qui était le premier après le Survivor Series. Voilà pour moi.
Okay. C'est un peu dur, Géliel.
Oui.
Mais je te comprends, j'ai un rêve dans ma note. D'abord, le flop, je vais le donner à Adam Pearce, parce que, voilà, il m'énerve. Il m'énerve à la limite, Sonya Deville, elle est heal, 99% du temps, donc voilà, considéré comme heal. Adam Pearce, il est rien, donc ça m'énerve, il est même pas logique dans ses choix. Donc, voilà, flop pour sa tronche. Le top, je le donnais à la Battle Royale finale, qui était sympa, qui était vraiment divertissante à suivre, et puis qui permet d'avoir un bon finish sur un show, encore une fois, on en parle souvent, c'est bien d'avoir un main event qui soit plaisant à suivre, un main event 4 chaises, en plus, que c'est assez rare côté SmackDown, donc on prend. Et ma note, alors, je comprends ce que tu dis, Géliel, parce que ça ronronne toujours, hein, SmackDown. Et en fait, moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que t'as Roman Reigns et ses histoires, et puis t'as le reste qui est mignon, sympa, mais qui vole jamais plus haut que la low card, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi. Ils n'arrivent pas à construire d'autres histoires. Notamment, on l'envoie avec Drew, qui est totalement squeezé de l'épisode, du coup, parce qu'on sait pas quoi en foutre. Et c'est un peu tout pareil. Alors, moi, il y a des trucs sympas qui, l'épisode lui-même me plaît, parce que, tu vois, on a parlé des filles, c'était plaisant. Corbin et Madcap, c'était plaisant. Jeff Hardy, c'est plaisant. Mais en même temps, tu te dis, c'est dans l'histoire globale, tu vois que le jour où Roman Reigns va croiser Brock Lesnar, du coup, si tu fais un autre challenger à Roman Reigns, tu n'y crois pas, parce que tu te dis, non, de toute façon, ça sera Brock Lesnar qui va l'affronter. Alors, à moins qu'un jour, il nous surprenne en faisant perdre la ceinture par Roman et que du coup, ils se battent l'un contre l'autre sans ceinture, mais j'y crois absolument pas pour l'instant. Et donc voilà, donc du coup je donne une bonne note quand même, parce que je donnais un 3, parce que moi l'épisode en lui-même il est plaisant, parce que voilà, il se fait de bout en bout sans décrocher. Par contre, je trouve qu'ils prennent énormément de risques avec cette tactique-là, parce que dès que t'as pas Roman, on l'a déjà eu, t'as un SmackDown qui est totalement creux. En pay-per-view, du coup, t'as tellement que Roman que c'est pareil, tu tombes vite dans la platitude tout autour. Et voilà, donc j'encourage vivement la WWE de tenter d'autres trucs, parce que si demain ils se blessent ou ils retombent malades ou je sais pas quoi, ils seront pas dans la merde d'avoir construit que autour de Roman.
Et, ouais. Et si je peux juste compléter l'avis de Papy, sur ce que je disais, mais c'est que aussi il y a quand même un truc qui s'appelle l'Intercontinental Championship, la ceinture. Et ils ne construisent rien autour. C'est aussi pour ça qu'il n'y a plus que ça, parce qu'ils ne construisent rien autour de... alors, qu'il n'y a rien à construire autour de Shinsuke Nakamura, ça c'est une chose. Mais autour de la ceinture en elle-même, ils ne construisent rien. Donc forcément, il ne reste plus que Roman Reigns.
Voilà. Géliel qui vient de me piquer mon flop en direct live.
Merde.
On efface.
On le coupera au montage.
Formidable, c'est formidable. Bon, écoutez, moi je vais être pile au milieu. Hein. Moi je vais mettre un 2,75. Et il faut que ça sorte les doigts, hein, parce que SmackDown, là, ça fait plusieurs semaines de suite que j'oscille entre 2,5 et 2,75. Et là, j'avoue que je mets 2,75 en raison de mon top, qui va être tout simplement le main event avec la Battle Royale, que moi, voilà, c'est le genre de truc dans lequel je suis totalement client. Donc je suis comme un enfant quand je regarde ce genre de match. Donc j'avoue que là-dessus je suis hyper indulgent, et même s'il y a des trucs dans le booking ou dans le line-up qui me plaisent pas des masses, c'est pas grave, et j'aime bien terminer, voilà, en particulier un SmackDown comme ça, quoi, qui est quand même le A-Show of the World, et donc du coup c'était plutôt cool, et c'est ça qui me fait monter la note à 2,75. Donc mon top, vous l'avez bien compris, c'est la Battle Royale, c'est le main event, et mon flop, c'était donc tout le traitement qui était réservé à l'Intercontinental et au fait de la catastrophe de l'un des plus mauvais règne de champion intercontinental qu'on ait eu depuis des années, là. Parce que là, vraiment, même si le titre intercontinental n'est pas super bien traité, hein, depuis des années, hein, j'en suis bien conscient. Hein. Mais là, franchement, ça a pris une proportion. C'est-à-dire que moi, quand je vois Reeboks et Nakamura arriver, je pense Tag Team Division, quoi. À aucun moment, j'en suis arrivé presque à un point où des fois, je me fais « Ah oui, ah c'est vrai, Nakamura, il est champion intercontinental. Oh » Et là, quand je réalise ça, je me dis « Oh non, mais c'est pas possible de devoir penser ça. » Donc non, c'est une catastrophe. C'est vraiment un traitement indigne pour le titre de champion intercontinental. Ouais, je partage parfois des tweets d'un compte qui s'appelle les 80s Wrestling. Là, on montrait Mister Perfect, hein, en champion intercontinental. Bah mes amis, ça avait quand même une autre gueule, hein, le papa de McGilly-Gilly, hein, quand même. Hein. Et bon, là vraiment, je suis vraiment triste du traitement du titre intercontinental. Donc, voilà les amis, ainsi s'achève cette review de Friday Night SmackDown. Pour vous donner juste deux, trois petites infos hors catch WWE, pardon. Il y a quand même eu un gros événement qui s'est passé, c'est-à-dire que cette semaine, il y a la Ring of Honor qui a mis donc la clé sous la porte et qui a fait qu'il y a eu un espèce d'apport massif de catcheurs et de catcheuses qui débarquent sur un peu toutes les fédérations. Alors pour l'instant, la WWE, on s'en est pas encore trop rendu compte, mais ça viendra peut-être un petit peu après. Mais en attendant, dans l'indie, ça se secoue. Il s'est passé un événement, c'était que Kenny Omega est donc blessé suite à Full Gear. Et va être opéré et va donc du coup rendre son titre de méga campeones, c'est-à-dire le titre de champion du monde de la Triple A, la ligue mexicaine. Et donc du coup, la Triple A a décidé tout simplement pour son prochain pay-per-view d'organiser un match avec quatre catcheurs, et des catcheurs, messieurs, que vous connaissez. Peut-être pas les quatre, mais en tout cas, je pense qu'il y en a au moins deux, il n'y a pas de problème. Donc le premier, c'est Hiro del Vikingo, qui va affronter Jay Lethal, qui a été un ancien champion de la Ring of Honor, Bobby Fish et Samurai del Sol, qui n'est autre que l'ancien Kalisto à la WWE. Et, excusez-moi, j'ai oublié le cinquième, puisque ce n'est pas un Fatal 4-Way, en fait, c'est un Five 4-Way. Et le cinquième, c'est tout simplement Bandido, qui était le champion en titre de la Raw avant qu'elle ne ferme ses portes. Ça vous dit quelque chose, les gars, ça? Ça vous parle un peu?
Jay Lethal, oui, parce que c'est l'ancien la TNA aussi, de mémoire. Donc, ouais. Je me souviens de ce personnage-là. C'est un peu dommage, toujours quand une ceinture est n'est pas défendue et qu'elle est remise en jeu suite à un forfait. Mais bon, c'est aussi le souci d'avoir laissé... que la AAA ait laissé sa ceinture à un mec qui soit pas du roster et puis qui du coup catch ailleurs et s'est blessé ailleurs, c'est un peu dommage quoi.
Ouais. Cet apport de catcheur là qui arrive. Alors Bandido est un catcheur que j'adore. Donc j'espérais le voir arriver à la WWE. Je le sens plutôt du côté de la All Elite Wrestling à la terme là. Mais c'est un des catcheurs mexicains que je préfère de ces dernières années quoi. C'est vraiment Bandido, c'est vraiment un catcheur extraordinaire. Il était champion de la Raw, donc vraiment vraiment pas de chance pour lui quoi. Mais du coup, je pense que ça va être un free agent largement demandé. Bobby Fish qui se retrouve un peu là aussi on ne sait trop comment. Alors, il y a des accointances entre la AAA et la All Elite Wrestling. Donc ceci explique cela, mais du coup voilà, donc on aura un Fatal Five Way pour le titre de la Triple A laissé vacant par Kenny Omega. Voilà. Écoutez, c'était les interventions un peu de la semaine. Je crois qu'il s'est passé pas mal de choses. Je sais pas, est-ce que vous avez vu NXT, les gars, par exemple?
Ça, j'allais t'en parler d'NXT. J'ai pas vu.
Vas-y, parle-en.
J'ai pas vu NXT. Par contre, j'ai vu le line-up de Wargame, là, qui est, de, je crois, dans. Pas ce week-end-ci, mais le week-end suivant. Et qui du coup m'a fortement intéressé et je me dis qu'il va peut-être me faire re-regarder au moins ce Takeover Wargame parce qu'ils ont fait un truc sympa que je trouve sympa, c'est qu'ils ont fait une équipe ancien contre nouveau dans le Wargame côté garçon. Alors j'ai plus les noms en tête côté les anciens, c'est facile, c'est Ciampa, Gargano, Pete Dunne et du coup le quatrième LA Knight. Donc les expérimentés et puis face à eux quatre jeunes. Alors j'ai plus du tout les quatre jeunes, mais il y a l'espèce de mafieux, il y a le mec qui a affronté le fils de Steiner, il y a le champion nord-américain là, pareil. Alors, j'ai plus les noms du
tout. Carmelo, ouais. Là.
Et il y a le quatrième. C'est qui le quatrième? C'est qui le quatrième? C'est un jeune aussi.
J'ai le line-up, donc la team old school contre la team new school en fait.
Alors la new school, c'est
la
qui
team,
new school?
La team old school, c'est Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Pete Dunne et LA Knight. Et la team new school, c'est Bron Breakker, Carmelo Hayes, Tony D'Angelo et Grayson Waller.
Ah, Grayson Waller, voilà, le mec un peu tête à claque, là, un peu le champion de sport du lycée là, que t'as envie d'éclater à chaque fois, là, qui a une bonne, vraiment, vraiment bonne tête à claque, je trouve. Et moi, je trouve ça super sympa qu'ils te servaient une stipulation pour mettre quelque chose de sympa. Ça me rappelle un peu ce qu'ils avaient fait à la ECW à une époque entre New Breed et les old school, là, qui étaient Original Guys, je pense plutôt, qui s'appelait, qui était sympa. Et ça me fait d'autant plus mal au ventre d'avoir eu des soirées en série aussi fades en termes d'opposition de roster. Et voilà, moi, je trouve que c'est sympa quand tu arrives à te servir d'une stipulation pour raconter une histoire. Et puis, côté fiche, j'ai plus les rosters en tête, mais en gros, tu as l'équipe avec l'équipe de Mandiros plus Dakota Kai face
à Chris, quoi. Alors, Ah, tu fais bien de parler de NXT parce que je voulais en parler un petit peu parce que Wargame c'est le 4 décembre donc c'est le week-end prochain hein, donc ça va arriver très vite. La carte, il y a de toute façon pour le Wargames match du côté féminin, il y a la team Raquel et il y a la team Dakota, donc Raquel Gonzalez, Yoshirai, Cora Jade et Kaylee Ray du côté de la team Raquel, et team Dakota c'est Dakota Kai, Mandy Rose, Gigi Dolin et Jessie Jane. Après t'as le Tag Team Championship qui va voir s'imposer, qui va voir donc Imperium, les champions en titre, qui vont affronter Kyle O'Reilly et Von Wagner, ou la Legado del Fantasma, parce que ça c'est pas encore réglé, ça va se régler mardi soir, il va y avoir un match entre ces deux contenders pour affronter Imperium, ou ça sera peut-être transformé en triple menace, qui sait. Il va y avoir aussi un Cruiserweight Championship avec, pour ceux qui se rappellent de lui, Roderick Strong qui va affronter Joe Gacy. Un R versus R match entre Cameron Grimes et Duke Hudson qui dans une espèce de rivalité de poker là, enfin bon, un peu à la con là. Voilà, et ce qui est intéressant c'est que la WWE fait pas mal de choses par rapport à NXT, et depuis qu'ils ont décidé de modifier le show, ils ont décidé de mettre en place un espèce de dispositif pour essayer de comprendre les fans en envoyant des questionnaires en fait à leurs abonnés. Et donc ils envoient voilà des questionnaires sur tout un tas de choses, entre autres sur questions posées sur le design du show, la qualité du ring, la variété des personnages proposés, les segments, les histoires construites, le côté divertissement, etc., etc., etc. Et on leur donne, on donne aussi aux gens une série d'affirmations qui est proposé, et les questionnés doivent confirmer le propos, dire pour ou contre, quoi, dire s'ils sont d'accord ou pas. Donc ils ont l'air de bosser un peu sur le travail de NXT. Et tu vois, bah j'ai regardé le weekly cette semaine, j'ai pas été super emballé, je te cacherai pas, mais par contre je trouve qu'effectivement la carte de Wargames a de la gueule.
Ouais, il tente des choses à NXT. Il avait, moi je trouvais que le souci c'était que c'était un show totalement délaissé là, même avant sa mort. Avec tous les anciens là qui ronronnaient, là pour le coup bah, ils tentent des choses un peu partout avec pas mal de nouveaux, qui beaucoup de catcheurs gimmickés, et je trouve ça sympa. Et franchement le vieux contre jeune me plaît beaucoup, parce que là il y a je trouve que c'est totalement dans l'esprit du reboot de NXT, et j'ose espérer du gros spectacle.
Je suis d'accord que ça c'est une bonne idée. Je trouve que là voilà un bon truc en plus comme ça sur la fin d'année, alors que le show a été changé il y a quelques semaines maintenant, quelques mois, enfin depuis début septembre. Donc du coup c'est plutôt une bonne idée. Ouais, cette carte de Wargames va être pas mal. On aura l'occasion, mon papy, d'en reparler sur Catch Up, puisque je pense que vraisemblablement il y aura une review de ce Wargames 2021. Et c'est pour ça c'est facile pour nous retrouver toutes les reviews qui sont faites par l'équipe de Catch Up. Rejoignez-nous sur la communauté Catch-Up sur Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des likes. Venez nous dire ce que vous avez pensé de ce SmackDown et ce que vous pensez peut-être de cette carte de Wargames. Pour ne rien manquer, abonnez-vous. Pour ne manquer aucun épisode, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcasts, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcasts, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Je vais donc pouvoir remercier les amis de la triple frite. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce Friday Night SmackDown. Merci à toi, Géliel.
Merci, Tonton, pour ce résumé toujours au top. Et merci également à Papy pour les échanges.
Merci à toi, mon Papy. Toujours insubmersible, toujours inamovible.
Ben oui, merci à toi, Tonton, pour cette animation dans des conditions qui n'étaient pas faciles, je le sais. Et merci aussi à Géliel d'avoir parlé suffisamment fort pour que Tonton l'entende.
Sur les problèmes de sonotone, c'est un bordel de faire des reviews avec des vieux au catch, c'est pas possible.
Ah, il faut du matos de qualité. Hein.
Bon allez, en attendant, on va aller retourner manger notre flan pistache. Hein. On va vous laisser là-dessus, peuple de catch-up. On va vous souhaiter une bonne semaine pleine de catch avec du flan pistache. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Géliel.
Salut Tonton. Salut Papy. Salut à tous.
Salut Papy.
Salut à tous. Salut Géliel. Salut Tonton.
Salut peuple de catcheurs. On n'est pas limite dans le harcèlement balance ton porc avec Paul Heyman et Kayla Braxton, là.
C'est la limite est fine. Hein. Elle est fine, pas comme Paul, d'ailleurs.
Très, très collé. Hein. Très, très collé.